Bonjour à tous. J'ai intitulé ce matin le message « Rester attaché ». Alors, pas rester attaché à la croix, puisque le Seigneur y a été pour nous, mais rester attaché, et on va voir ensemble à quoi. Dans la seconde épître de Timothée. Tout au long de la vie chrétienne, nous avons besoin d'être exhortés, et je pense que c'est notamment l'une des raisons de votre présence ce matin, être exhorté. Nous avons tous besoin de grandir, de progresser dans de nombreux domaines, comme la connaissance de Dieu, la connaissance de sa parole, pour affermir notre foi, pour aimer plus et aimer mieux, pour acquérir la sagesse et le discernement, pour progresser dans notre sanctification, etc., etc. Et pour cela, on peut compter sur ceux qui nous ont précédés dans la foi et bénéficier de leur expérience. Cependant, tous ne sont pas de bons mentors et l'imperfection doit toujours, toujours être considérée. Car ces mentors sont des êtres imparfaits, des pécheurs. Et ça nous invite à discerner ce qui est bon à prendre et ce qu'il faut parfois laisser. Heureusement, nous pouvons compter sur la parole de Dieu pour nous montrer d'excellents serviteurs du Seigneur, sans pour autant, et ça c'est une particularité de la Bible, sans pour autant omettre leur faiblesse. D'habitude, dans les écrits, notamment historiques, on va montrer que les meilleures facettes d'un roi, d'un responsable, etc., eh ben, la Bible ne le fait pas. Elle va aussi montrer les défauts, les problèmes. On peut penser aux patriarches, à Abraham par exemple, qui n'a pas été assez patient dans la promesse que Dieu lui avait faite. Alors pas assez patient, ça dépend de quel point de vue on regarde. Hein. 25 ans avant de céder, c'est une sacrée patience quand même. On peut penser à Moïse, on peut penser au roi David. David, il a même été capable d'aller faire tuer quelqu'un pour lui piquer sa femme. C'est fort. Salomon, qui va sombrer à cause notamment de sa puissance et de son harem. On peut penser au prophète Jonas à Ninive, il ne voulait pas y aller. Hein. Ou à Jérémie, qui de temps en temps fait preuve de faiblesse et dire « Non Seigneur, je ne veux plus maintenant, j'en ai marre ». Ou Ézéchiel, même certains en ont dit qu'il avait peut-être des problèmes psychiatriques, on ne sait pas trop. Ou encore même les apôtres, Pierre et Paul se sont chamaillés. Hein. Et oui, la Bible n'omet pas les faiblesses de ces grandes personnes de la Bible. Vous aurez peut-être noté quelque chose d'important, c'est que je n'ai pas cité Jésus. Ah, pourtant, le modèle par excellence, ben oui, mais parce qu'il y a une différence avec les autres là. Lui, il est parfait. Lui, il n'y a pas d'erreur. Lui, tout ce qu'il a fait a été parfait. Alors ce matin, on va regarder ce que l'apôtre des païens, c'est l'apôtre Paul, a à nous dire dans la transmission qu'il opère avec son fils dans la foi, c'est Timothée. Et nous allons voir ensemble deux références. Ah, ça ne veut pas. Merci. Deux références qui l'accompagnent et auxquelles nous devons être attachés. C'est à ça qu'il faut rester attaché. L'enseignement et l'exemple de Paul, donc l'apôtre, pas le pasteur, quoique ça se discute, mais et la deuxième référence, évidemment, les Saintes Écritures. Alors je vous invite à ouvrir vos Bibles dans la deuxième épître de Timothée, au chapitre 3, et nous allons lire les versets 10 à 13. Donc c'est évidemment l'apôtre qui parle à Timothée. « Mais toi, tu as pu m'observer dans mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, mon endurance. Tu as pu voir quelles persécutions et quelles souffrances j'ai endurées à Antioche, à Iconium et à Lystre. Quelles persécutions, en effet, n'ai-je pas subies ? Et chaque fois, le Seigneur m'en a délivré. En effet, tous ceux qui sont décidés à vivre dans la piété par leur union avec Jésus-Christ connaîtront la persécution. Mais les hommes méchants et les charlatans s'enfonceront de plus en plus dans le mal, trompant les autres et trompés eux-mêmes. On va d'abord s'arrêter là. Dans cette ultime lettre qui s'apparente à un testament, l'apôtre exhorte une toute dernière fois son jeune collaborateur, Timothée. Il place devant lui 9 traits qui caractérisent le serviteur du Seigneur. Son enseignement, sa conduite, ses projets, sa foi, sa patience, son amour, ses souffrances et ses persécutions. Et on va prendre le temps de s'arrêter un petit peu sur chacune d'entre elles. La première, l'enseignement. Alors, il ne s'agit pas des propres pensées de l'apôtre, comme d'un témoignage de son expérience, un testament qu'il viendrait transmettre. Alors, voici ce que j'ai vécu, voici ce que j'ai compris dans ma vie. Non. Ce n'est pas un bilan de son expérience de vie. En fait, quand l'apôtre parle de son expérience, il parle de sa doctrine, de sa fidélité à la parole de Dieu et de sa loyauté envers la personne du Christ. Dieu avait donné à Paul des révélations particulières auxquelles l'apôtre s'est pleinement identifié et qu'il avait portées à tous les chrétiens. Cet enseignement ne comprenait pas seulement le pardon des péchés par la foi en Jésus-Christ, mais comprenait aussi la mise à mort de notre vieille nature pécheresse, le don de la vie nouvelle par la nouvelle naissance ou encore le mystère révélé de l'Église du Christ. Voilà ce à quoi nous devons rester fermement attachés. Une foi fondée sur la saine doctrine est une foi solide. L'enseignement est source de sagesse et de discernement pour la vie que nous devons mener. Il est comme une boussole qui nous guide, ou, j'ose le dire, une lumière sur notre sentier. Le deuxième, c'est la conduite. Ce qui est intéressant avec l'apôtre, c'est qu'il ne dit pas « faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais ». Non. Sa conduite était conforme au message qu'il prêchait. Alors, ça ne veut pas dire que tout était parfait. Notamment, on a cette pensée dans Romains 7 où l'apôtre dit « Ah, j'en ai marre, je fais le mal que je ne veux pas faire et je ne fais pas le bien que je voudrais faire ». Bon, soyons honnêtes, on est tous concernés par cette phrase. On cherche tous. L'apôtre n'était pas parfait, mais au moins il essayait coûte que coûte. Il est donc un témoignage solide, réfléchissant la lumière du Christ pour les nations. Petit parallèle avec ma prédication sur sel et lumière. L'apôtre invitait toujours les croyants à être ses imitateurs, tout comme lui-même imitait son Seigneur le Christ. Quand il écrit aux Corinthiens, chapitre 11, verset 1, « Suivez donc mon exemple, comme moi, de mon côté, je suis celui de Christ. » Un jour à l'église, alors pas ici, mais quand j'étais en poste à Rue Malmaison, on m'a mis la pression. Quand on m'a dit « Le pasteur, c'est l'exemple de ce que l'on doit suivre. » Et là, je me suis dit « Mince !» Donc ça veut dire qu'il faut que j'arrive à être parfait. Et ça, c'est mal engagé, parce que je ne le suis pas. Mais je comprends la phrase autrement. Tout le monde ne doit pas me ressembler ici. En revanche, on doit tous ressembler à l'attitude qui cherche à plaire à Dieu. Et ça, c'est un autre mode d'imitation. On n'imite pas la personne, on imite son objectif. Et j'espère que c'est votre cas. C'est un travail qui est difficile. Imiter notre Seigneur et Sauveur, voilà un défi complexe. Mais le Seigneur, par son esprit, nous aide à progresser sur le chemin de la sanctification. Car notre conduite est un témoignage pour notre entourage. Ils peuvent ainsi constater notre différence et notre marche à contre-courant du monde. Le troisième trait, ce sont les projets. Paul a eu plusieurs projets, mais ce qui est intéressant, c'est que tous ces projets étaient en rapport avec Dieu. Propager l'évangile aux nations, fonder des églises, servir le Seigneur en mettant sa propre personne au second plan. Mais aussi, de manière plus personnelle, se garder de tout vice moral et doctrinal et évidemment, garder sa foi jusqu'au bout. j'ai gardé la foi, je suis prêt à accueillir la couronne de victoire, etc. etc. Admettons-le, la barre est haute. Mais les projets que l'on forme sont toujours différents si Jésus-Christ est à la plus haute place dans notre cœur. Ça colore les projets que nous avons. De plus, n'oublions pas une chose importante, la souveraineté de Dieu. J'aime beaucoup le chapitre 16 des Proverbes, car c'est un chapitre qui parle beaucoup des projets de l'homme et de l'attitude de Dieu. Et il commence dès le verset 1. L'homme fait des projets, mais celui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel, toujours. Quatrième trait, c'est la foi. La foi, pour l'apôtre, c'est le mobile de sa vie. Ça signifie tant la confiance en Dieu de l'apôtre, confiance à toute épreuve, malgré les nombreuses difficultés auxquelles l'apôtre a fait face et dont on va parler, mais aussi la fidélité dont il a fait preuve envers celui qu'il persécutait autrefois, car il persécutait Jésus-Christ. Dans ce domaine, l'apôtre est encore un exemple fort. De plus, la permanence et la force de sa foi est bien la preuve que sa rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas, acte 9, c'était pas faux. Si c'était faux, est-ce que l'apôtre serait allé jusqu'à faire tout ça? Si c'était quelque chose qu'il avait inventé? Non. C'est un argument fort en faveur des apôtres, Ils sont allés jusqu'à mourir pour ce qu'ils croyaient, pour ce qu'ils ont vu. On ne va pas jusqu'à mourir pour un mensonge. C'est d'ailleurs l'une des conclusions qu'avait faite Lee Strobel, celui qui a écrit Jésus l'enquête. Cinquième trait, la patience. Ça revient. Vous l'avez peut-être remarqué, mais on est en train de citer certains fruits de l'esprit. On se rend moins compte aujourd'hui, mais du temps de Paul, il n'y avait pas les avions, il n'y avait pas la fibre, il n'y avait même pas Internet. Tout prenait du temps. Et il devait souvent faire preuve de patience dans son ministère. Souvenons-nous que lorsqu'il écrit ces lignes, l'apôtre est de nouveau en prison. L'amour. Alors, j'avais fait une prédication il y a quelque temps sur l'amour et qu'il y avait trois formes d'amour. Ici, c'est l'amour agapé qui est utilisé en grec. Paul était dévoué au Seigneur et à ses semblables, sans égard pour lui-même. Le tout sans considérer l'amour qu'il pouvait recevoir en retour. En fait, c'est une forme d'amour inconditionnel. Certes, il aimait ceux qui le considéraient et comme tout être humain, il n'était pas insensible au bien qu'il pouvait recevoir en retour. Mais il manifestait aussi de l'amour envers ceux qui ne l'aimaient pas. Septième trait, c'est l'endurance. L'apôtre a enduré beaucoup. Les prisons, les rejets, les condamnations, les doutes sur son ministère. Quand vous lisez ses épîtres, il y a pratiquement dans beaucoup d'elles, il y a un chapitre sur la défense de son ministère. Bon, je suis apôtre et je vais vous dire pourquoi je suis apôtre. Il faut encore le répéter. Donc c'est qu'il y avait des doutes. Mais il a aussi vécu des persécutions et des souffrances. Tout ça par amour pour Christ et par amour pour les hommes. Tiens, ça vous fait penser peut-être aux commandements les plus importants. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il m'est arrivé, d'un point de vue plus personnel, de me poser la question si je pouvais lâcher l'affaire en cas de forte persécution. Peut-être on s'est tous demandé, si un jour je vis ce qu'on voit dans les vidéos de portes ouvertes, est-ce que je tiens ferme? Est-ce que vraiment je dis, non, Jésus-Christ, jusqu'au bout? Même si on me dit, là, on va s'en prendre à ton fils. J'avoue que j'ai peur de répondre à cette question. Et j'espère de tout cœur que le Seigneur me donnerait la force d'endurer pour la gloire de son nom. Huitième et neuvième, je les ai mis ensemble. Les persécutions et les souffrances. Alors Paul, il en donne une description, notamment, je ne l'ai pas mis dans la slide, mais dans 2 Corinthiens 11, versets 23-28, que je vais vous lire. Ils sont serviteurs du Christ, c'est une folie ce que je vais dire, mais je le suis plus qu'eux, car j'ai davantage travaillé, j'ai été plus souvent en prison, j'ai essuyé infiniment plus de coups, Plus souvent, j'ai vu la mort de près. 5 fois, j'ai reçu des Juifs les 40 coups -1. 3 fois, j'ai été fouetté. 1 fois, lapidé. J'ai vécu 3 naufrages. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans la mer. Souvent, en voyage, j'ai été en danger au passage des fleuves. En danger dans les régions infestées de brigands. En danger à cause des Juifs, mes compatriotes. En danger à cause des païens. En danger dans les villes. En danger dans les contrées désertes. En danger sur la mer. En danger à cause des faux frères. J'ai connu bien des travaux et des peines, de nombreuses nuits blanches, la faim et la soif, de nombreux jeûnes, le froid et le manque d'habits. Et sans parler du reste, je porte un fardeau quotidien, le souci de toutes les églises. Oui, l'apôtre en a bavé. Mais étonnamment, à Timothée, il va donner un autre exemple. Il va citer 3 villes, Antioche, Iconium et Lystre. Alors pourquoi il fait ça à Timothée ? Tout d'abord, parce que Timothée était originaire de cette contrée. Il vient de Lystre, que Paul avait visité lors de ses 2 premiers voyages. Il est en fait tout à fait probable que Timothée ait pu assister aux souffrances que l'apôtre évoque. Donc quand l'apôtre lui cite ces villes, pour Timothée, ça a un raisonnement. On en trouve une description dans le livre des Actes. Acte 13, verset 50, c'est pour Antioche de Pisidie. Mais les Juifs excitèrent les femmes dévotes de la haute société qui s'étaient attachées au judaïsme, ainsi que les notables de la ville. Ils provoquèrent ainsi une persécution contre Paul et Barnabas et les expulsèrent de leur territoire. Chapitre suivant, à Iconium, verset 5. Les non-juifs et les juifs, avec leurs chefs, s'apprêtaient à maltraiter les apôtres et à les lapider. Et un peu plus loin, verset 19, à Lystre. Des Juifs arrivèrent d'Antioche et d'Iconium et ils parvinrent à retourner le peuple contre eux. Ils lapidèrent Paul, puis ils le traînèrent hors de la ville, croyant qu'il était mort. Pour autant, à toutes ces difficultés, Paul ajoute l'essentiel. À chaque fois, le Seigneur l'en a délivré. Oui, Dieu ne lui avait pas évité de traverser tout cela. Mais il l'en avait délivré. La nuance, elle est importante. Car Dieu ne nous a jamais promis d'être à l'abri des difficultés dans l'Écriture. Comme malheureusement, on peut l'entendre de la part de certains responsables chrétiens. En revanche, si Dieu ne nous a pas promis d'être à l'abri des difficultés, il nous a promis d'être toujours là avec nous et de nous aider à les traverser. Paul va même d'ailleurs dans ce sens quand il dit que tous ceux qui sont décidés à vivre dans la piété par leur union avec Jésus-Christ connaîtront la persécution. Il avertit ainsi Timothée. Ça fera partie du jeu. Car une vie pieuse révèle l'iniquité des autres et les gens n'aiment pas être vus ainsi. Au lieu de se repentir de leur impiété et de se tourner vers Christ, ils cherchent à détruire celui qui a révélé ce qu'ils sont vraiment. C'est une attitude caractéristique de l'homme déchu. Alors peut-être qu'en tant qu'occidentaux, plutôt loin de la persécution que l'on constate par exemple avec Portes Ouvertes, on peut s'interroger. Sommes-nous passés entre les mailles du filet, entre les gouttes ? Ou peut-être manquons-nous de piété ? La persécution, elle peut prendre plusieurs formes. Elle n'est pas toujours empreinte de violence physique. Ça peut être des moqueries, des considérations rabaissantes de la part des collègues au travail. Ça peut être de l'exclusion ou même un reportage dégradant sur le service public. La persécution, elle peut prendre plusieurs formes. Mais peut-être qu'autre chose est possible, c'est que nous cachons notre identité chrétienne. Après tout, si personne ne sait que je suis chrétien ou chrétienne, que je vais aux diverses réunions de l'Église évangélique qui plus est, on ne m'embêtera pas. C'est comme mettre la lumière sous le boisseau. Paul avertit Timothée. Le mal ira en grandissant. Les hommes mauvais s'enfonceront de plus en plus. Et des loups entreront dans l'Église pour apporter de nouvelles doctrines qui n'ont rien de biblique. Non, Paul ne croyait pas en l'humanité. Il ne croyait pas en sa capacité à faire le bien, car il connaît la corruption du péché. Certains prédicateurs ne sont pas exempts de ce reproche. Il y a des enseignants possédant un certain charisme qui parle très bien, qui viennent dans les églises pour tromper le peuple de Dieu. J'ai en tête notamment les fameux prédicateurs de la théologie de prospérité, véritable fléau pour les croyants. Non seulement ils trompent les autres, mais eux-mêmes sont pris au piège des mêmes fausses doctrines qu'ils apportent. Ils finissent par y croire. Paul met en lumière la corruption de ces derniers jours. Non, ça n'ira pas mieux plus tard. Même la chrétienté le montre. Le vieil homme est de plus en plus toléré dans les églises. Certains exigent parfois un changement de comportement social et de mœurs, mais sans repentance et sans foi en Jésus-Christ. On a baissé les standards dans nos églises, à tel point qu'on en vient à accepter tout. Parfois même avec un argument bien vicieux, hein, l'argument de l'amour. Mais oui, on accueille, puisqu'on est appelé à aimer. Aimer, ce n'est pas se compromettre. Le Seigneur a été très clair. On ne peut pas servir de maître. Dans tout cela, soyons bien vigilants. Ne prenons pas tout ce que dit un prédicateur comme équivalent à la parole de Dieu, sans en vérifier la conformité avec l'Écriture, la vraie parole de Dieu, celle qui est digne de foi. Je prends ici quelques instants pour parler du prédicateur qui se trouve devant vous ce matin. Je ne suis pas infaillible. Je suis comme vous, un pécheur qui peut faire des erreurs. Ça, c'est infaillible. C'est ça qui est digne de foi. Vérifiez ce que je vous dis. Ne prenez pas l'argument « Ah bah Paul l'a dit, alors non. » Je ne suis pas infaillible. Je ferme la parenthèse. La deuxième référence majeure, après avoir parlé de lui et de son enseignement, ce sont évidemment, ce dont je viens de parler, les Saintes Écritures. Et on va lire la suite de 2 Timothée 3, verset 14, jusqu'à la fin du chapitre 3. Donc c'est toujours l'apôtre qui parle à Timothée 1. « Pour toi, reste attaché à tout ce que tu as appris et reçu avec une entière conviction. Tu sais de qui tu l'as appris et que depuis ton enfance, tu connais les Saintes Écritures. Elles peuvent te donner la vraie sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Car toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. » Après avoir montré l'exemple, Paul rappelle à Timothée de demeurer dans l'enseignement qu'il a reçu. Car la mise en pratique découle de ce qui est compris et reçu avec une entière conviction. On attend souvent d'une prédication la partie pratique. Mais s'il n'y a pas de théorie avant la pratique, il n'y a pas de bonne pratique. C'est pour ça que quasiment toutes les épîtres de Paul comprennent une moitié d'enseignement doctrinal et une moitié de mise en pratique. C'est très intéressant si vous êtes attentif à ça. La mise en pratique découle de ce qui est compris et reçu avec une entière conviction. Demeurer ferme dans l'enseignement de la parole de Dieu est primordial. C'est la plus grande ressource quand les fausses doctrines abondent de toutes parts. Si vous connaissez l'Écriture et si vous y obéissez, alors vous ne serez pas séduit par ces erreurs subtiles. Paul souligne qu'il connaît les Saintes Écritures depuis son enfance. Alors là, il y a un peu débat dans les manuscrits, mais il fait très probablement référence à Loïs et Eunice. Alors, qui sont Loïs et Eunice? En fait, c'est la grand-mère et la mère de Timothée qui lui ont enseigné l'Ancien Testament. La culture de l'époque chez les Juifs, c'est qu'on enseignait l'Ancien Testament dès l'âge de 5 ans aux enfants. En fait, on les faisait baigner dans les Saintes Écritures dès tout petit. Et j'aimerais donc m'arrêter quelques instants sur ce détail. les parents enseignaient les Saintes Écritures à leurs enfants. Aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, on compte plutôt sur les moniteurs et monitrices de l'école du dimanche pour remplir ce rôle. Attention au désengagement de votre responsabilité. C'est aux parents d'enseigner l'Écriture, la Bible, aux enfants. Ça ne veut pas dire que les moniteurs et monitrices ne servent plus à rien, non. Mais avant tout, c'est à vous avant que ce soit à eux. Je voulais le redire car je crois que c'est très important. C'est très important pour leur avenir. Les Saintes Écritures, elles donnent la vraie sagesse, la clé pour comprendre l'œuvre du salut offerte par grâce. Elles donnent la connaissance de Dieu et de sa volonté. Et elles nous informent les dangers pour notre vie. On pose parfois la question, oui, mais qu'est-ce que Dieu y veut pour ma vie? Je ne sais pas trop. La réponse, elle est là. Faut pas chercher très loin. Elles nous informent des dangers pour notre vie. J'imagine que tout ce que je viens de citer, ce n'est pas une connaissance dont vous voulez priver vos enfants. Vous voulez qu'ils aient cette connaissance, cette information-là. Et je me veux un peu provocateur. J'ai constaté, alors peut-être un défaut, mais quand je suis arrivé en région parisienne, j'ai découvert que les gens étaient assez portés sur leur carrière professionnelle, et qu'ils inculquaient ça aux enfants. Non, non, il faut être très bon à l'école, comme ça après tu pourras faire les meilleures écoles, et puis après comme ça tu auras le meilleur travail. Et ça, c'est une pensée qui va dans l'Église, qui s'infiltre. À tel point que l'Église et la parole de Dieu devient secondaire. Non, non, l'école d'abord, et puis l'Église, on verra après s'il te reste du temps. Ne fonctionnez pas comme ça. Les études, aussi bonnes qu'elles soient, et le meilleur diplôme aussi bon qu'il soit, il ne vous donnera pas la vie éternelle. Vous n'irez pas devant le Seigneur au jour du jugement dernier en disant « Ah, ben moi, j'étais un super médecin, j'ai été ceci, cela, très bon avocat, tout ça. » C'est pas ce que le Seigneur y va regarder. C'est pas ce que le Seigneur y va regarder. Misez sur ce qui compte vraiment, la parole de Dieu. Alors peut-être que mon ressenti est faux. Quand je suis arrivé de province, pour moi, ça a été hyper flagrant. Peut-être que c'est pas juste, mais j'ose le dire quand même, car c'est une idée qui guette profondément de nombreux parents. Ce n'est pas une idée qui est mauvaise, mais elle devient mauvaise quand elle en vient à supplanter ce qui est de plus important. Je relis volontairement les versets 16 et 17. Car toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. Alors, ça me fait sourire. Aujourd'hui, je ne le connais plus par cœur, ce verset. Mais dans mes études, je devais l'apprendre par cœur. C'était obligatoire, je devais le réciter au professeur. Il y a des versets qu'on apprend par cœur. Vous connaissez tous, je pense, le fameux Jean 3,16. Vous connaissez tous la prière du Notre Père, etc. Celui-là, là. Versets 16 et 17, toute écriture est inspirée. Celui-là, il en fait partie. Il est indispensable dans votre carnet, il doit être appris par cœur, celui-là. Car c'est la clé d'une doctrine bien connue, la doctrine de l'écriture. Alors, ce matin, je vous emmène avec moi pour un petit voyage qui, moi, me plaît beaucoup. Vous, je ne sais pas s'il va vous plaire, mais moi, il me plaît beaucoup. Je vous amène avec moi au cœur de l'exégèse et de la théologie biblique. On va faire un petit peu d'exégèse et de théologie ici ce matin. Le mot traduit par « écriture » en grec ici, c'est le mot « graphé ». C'est un terme qui apparaît 51 fois dans le Nouveau Testament et qui fait toujours, je dis bien toujours, référence aux Écritures de l'Ancien Testament. « Graphé » ne désigne pas autre chose que ça. Il n'était utilisé que pour les écrits considérés comme étant « parole de Dieu » et donc comme faisant partie du canon de l'Écriture. Alors, quand l'apôtre écrit toute l'Écriture, c'est évidemment tout l'Ancien Testament, mais pas que. Une partie du Nouveau Testament, je dis une partie parce qu'à l'époque, il n'était pas achevé. Tous les écrits n'étaient pas encore là. Mais probablement aussi certaines lettres qui commençaient à circuler. Les apôtres du Seigneur, décerne le titre d'écriture à d'autres textes que des textes de l'Ancien Testament. J'en ai mis quelques-uns, il y a d'autres références, mais je vous mets celle-ci. Par exemple, dans sa première épître à Timothée, chapitre 5, verset 18, l'apôtre Paul écrit ceci. « Car l'écriture, donc encore graphée, déclare « Tu ne mettras pas de muselière au bœuf qui foule le grain. » Donc ça, c'est un texte du Deutéronome, il me semble, chapitre 28. Donc, texte de l'Ancien Testament, c'est l'écriture. Mais ce qui est intéressant, c'est celui qui cite après. « Et encore, l'ouvrier mérite son salaire. » Alors ça, si vous cherchez dans l'Ancien Testament, vous ne le trouverez pas. Car qu'en fait, c'est une citation de l'évangile de Luc. Et ce qui est intéressant, c'est que Paul dit, de ce texte-là, l'Écriture déclare. Ça montre bien que pour Paul, l'évangile de Luc était Écriture. Un autre apôtre, Pierre, écrit ceci dans son chapitre 3 de sa deuxième épître. Paul, donc il parle de l'apôtre, hein, notre frère bien-aimé, vous l'a aussi écrit avec la sagesse que Dieu lui a donnée. Il l'a fait comme dans toutes ses lettres où il aborde ces sujets. Certes, il s'y trouve des passages difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies déforment le sens, comme elles le font aussi pour leur propre ruine, des autres textes de l'Écriture. Pour Pierre, les lettres de Paul sont Écriture, graphées. Maintenant qu'on a parlé de toute l'Écriture, je vous emmène dans le mot suivant, toujours l'exégèse et la théologie. L'Écriture est dite « théopneustos ». Ouah, c'est quoi ce gros mot? Mais en fait, c'est assez facile à comprendre. Théo, c'est Dieu. Pneustos, vous pensez à ce qu'il y a, ce que vous avez quatre fois sur votre voiture, les pneus, qui contiennent de l'air. En fait, c'est en rapport avec le souffle. Théopneustos, ça veut dire « soufflé par Dieu », tout simplement. Donné par lui. Alors, vous voyez que dans votre Bible, souvent, on a traduit par « inspiré ». Toute l'Écriture est inspirée. En fait, la traduction ne rend pas exactement le sens du mot ici. Le terme désigne plutôt le sens de « souffler »,« spirer »,« exhaler » par Dieu. Porté par le souffle de Dieu, comme notre parole à nous, elle est portée par notre souffle respiratoire. Quand on parle, on fait vibrer les cordes vocales, on expulse de l'air. Et ben, c'est la même chose, c'est la même compréhension qu'il faut avoir ici. Ce terme grec ne servait pas qu'à ça. Il servait aussi à indiquer l'origine divine de quelque chose. Par exemple, quand il est écrit « la sagesse théopneustos », ça veut dire la sagesse qui est donnée par Dieu. Autrement dit, l'Écriture est théopneustos, ça signifie qu'elle vient de Dieu et qu'elle est de Dieu. Pierre, dans sa deuxième épître, écrit ceci. « C'est porté par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » C'est une très bonne compréhension. C'est Dieu qui a pris l'initiative, qui a porté les auteurs humains par la puissance irrésistible de son esprit et qui s'est ainsi servi d'eux comme des instruments. Il est donc faux de dire que Dieu donnait simplement des pensées aux différents auteurs et qu'il leur laissait le soin de les exprimer par leurs propres paroles. Ce n'est pas une parole humaine produite avec l'aide divine. Non, c'est la parole même de Dieu. L'apôtre décrit après son utilité. Elle est utile pour enseigner. Oui, elle contient la saine doctrine. Elle nous donne la pensée de Dieu sur des sujets tels que sa personne, le monde invisible, l'homme, le péché, le salut, la sanctification, l'Église ou même les événements à venir. Elle est utile pour réfuter, pour combattre justement les fausses doctrines qui peuvent rentrer dans l'Église, pour combattre les enseignements mauvais, pour réfuter les fausses prophéties. On peut penser par exemple là à l'exemple de Jésus, quand il est tenté par le diable, en Matthieu 4 ou en Luc 4, comment il se défend? Il cite l'Écriture. Il est écrit tatati tatata. Est utile pour redresser, pour reprendre lorsque nous ne sommes pas dans la bonne direction. Il est aussi question là de la discipline d'Église, hein. Redresser. Parfois, ça arrive qu'on sorte un petit peu. Hop là. Et puis on a besoin de quelqu'un qui va nous redresser. Mais pas nous redresser avec ses pensées à lui, nous redresser avec les pensées de l'Écriture, afin de produire la repentance et de faire grandir sur le chemin de la sanctification. Elle est également utile pour apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. C'est un guide pour vivre dans la crainte et dans la grâce de Dieu, d'une manière juste, non par rapport aux hommes, mais par rapport au Créateur. L'Écriture prépare l'homme et l'équipe pour accomplir toute œuvre bonne. Autrement dit, elle nous prépare à la maturité dans tous les domaines. On peut penser à Michée 6. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien et ce que l'Éternel attend de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu marches humblement avec ton Dieu, je ne me souviens plus. Ça aussi, c'est un verset à prendre par cœur d'ailleurs. Car la foi authentique, elle produit des œuvres. Non parce qu'elle participe à notre salut, mais que si nous considérons que Jésus-Christ est notre Seigneur, alors on cherche obligatoirement à porter du fruit qui le glorifie, lui. En conclusion, apprenez ces deux versets par cœur. Semaine prochaine, je demande à quelqu'un de venir le réciter devant. Non, je plaisante, je ne vous ferai pas ça. Mais c'est très utile quand même. Le testament que Paul rédige à l'intention de son fils en la foi, Timothée, est riche d'enseignements pour nous. Il rappelle ce qui compte et ce à quoi nous devons rester fidèlement attachés. Les saintes Écritures, la saine doctrine qu'elles contiennent et des exemples de foi et de fidélité éprouvés comme l'apôtre l'a été. Dans la vie, on considère souvent des personnes comme inspirantes, voire comme des mentors. Paul était le mentor de Timothée, mais il est aussi le nôtre de par son enseignement et son exemple. On a beaucoup de choses à apprendre de lui, de son expérience malgré ses imperfections, son humanité, les persécutions qu'il a traversées, les souffrances qu'il a endurées pour le Christ. Elles sont très parlantes pour le croyant que nous sommes. Mais l'apôtre ne centre pas tout sur lui. Il rappelle avec force que l'Écriture, parole de Dieu, est essentielle. Le Seigneur l'a préservée jusqu'à nous pour que nous en tirions l'enseignement nécessaire pour mener une vie digne que la grâce dont nous sommes l'objet. C'est incroyable, je trouve, qu'après tant de millénaires, on l'ait toujours. Et que ce ne soit pas perdu. On l'a toujours. Il me semble que c'est toujours le livre le plus vendu dans le monde, d'ailleurs. Dans une autre lettre, celle de Tite, Paul résume cet enseignement dont je viens de parler. En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Elle nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener dans le temps présent une vie équilibrée, juste et empreinte de piété, en attendant que se réalise notre bienheureuse espérance, la révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. Il s'est livré lui-même pour nous, afin de nous délivrer de toute désobéissance et de faire de nous, en nous purifiant ainsi, un peuple qui lui appartienne et qui met toute son ardeur à accomplir des œuvres bonnes. Amen.